commencer 28.1.1, la colonne de droite, d'accord, Simanim ve Simanim, en haut de la page. Donc c'est Rava qui continue, d'accord. Donc on était arrivé à la conclusion, la semaine dernière, que les Simanim sont min HaTorah. Et on a posé la question, est-ce que le fait qu'on peut récupérer un objet en apportant des signes distinctifs sans amener de témoins, est-ce que c'est quelque chose qui est valable, est-ce que c'est quelque chose qui a été instauré par les rabbins, mais normalement, halakhiquement parlant, il aurait fallu des témoins, ou bien est-ce qu'on va dire que min HaTorah, des témoins, ça marche. Donc la conclusion que Rava était arrivée, a priori, c'était que les simanim sont min HaTorah, c'est-à-dire c'est quelque chose que la Torah a instauré. Bon, donc ça, on a développé la semaine dernière et la semaine d'avant. Maintenant, Rava, il continue. Il nous dit simanim ve simanim. Si j'ai trouvé quelque chose, et donc je proclame, je dis voilà, j'ai trouvé quelque chose, et celui qui me donnera les simanim pourra le retrouver, et il y a deux personnes qui viennent qui me donnent les mêmes signes distinctifs. Même signes distinctifs. Donc, il n'y a pas un qui donne plus de signes qu'un autre. Il n'y a pas 10 000 signes, c'est un vêtement, voilà, chacun il donne les mêmes signes. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on le rend?
On en est où là?
D'accord. Simanim et simanim. En haut, colonne de droite. Qu'est-ce qu'on fait? Yaniach. Celui qui a trouvé l'objet, donc dans ce cas-là c'est moi, je garde l'objet chez moi à la maison jusqu'à ce que Yahou Anavi viendra et dira à qui appartient la perte. D'accord, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que je dois garder l'objet chez moi jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel élément jusqu'à qu'il y ait un nouvel élément de preuve qui vienne. C'est vrai qu'il n'y a pas de nouvel élément.
C'est pas comme l'histoire du salif là, quand
c'est notre grand. Oui, on va comparer après. Donc, simanim et simanim, yaniach. Si les deux amènent des simanim, parce que rappelez-vous, on est arrivé à la conclusion que les simanim ont une force a priori selon la Torah. Donc, si elles les deux qui ont une force, donc c'est comme si que j'ai témoin contre témoin. Qu'est-ce que je fais quand j'ai témoin contre témoin? Témoin contre témoin, pas normal, c'est valeur nulle, c'est zéro. D'accord? C'est pas moitié-moitié, c'est ça le chidouche. C'est comme si qu'il n'y a rien. Il y a simanim contre simanim, donc je garde l'objet. Maintenant.
Je garde l'objet, celui qui l'a trouvé.
Je garde l'objet, pas je le garde, enfin je le garde en dépôt. Moi qui l'ai trouvé, je garde l'objet en dépôt jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles.
On peut l'utiliser aussi?
Non. Je peux l'utiliser, ça dépend, je peux l'utiliser dans certains cas. Ça, on verra après. On verra après vers la fin de
l'Oumétiote. Bon, est-ce qu'il n'est pas très préparé?
Normalement, on n'a pas
le droit d'utiliser. Bon, il y a le temps qu'il vienne, j'ai le temps quand même le droit de.
Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser. On a le droit d'utiliser, ça va être compliqué. On va voir qu'on a le droit d'utiliser qu'une utilisation qui maintient l'objet en forme. Tu vois, par exemple, une machine, tu l'utilises pas, ben, comme une voiture, tu l'utilises pas, elle pourrit. Donc, tu vas faire un petit tour avec tous les mois pour la garder fraîche. Mais plus que ça, t'as pas le droit. Bon, ça, on verra dans la Gemara plus tard. Donc, simanim ve simanim yanir. Maintenant, simanim ve edim. S'il y en a un, il y a deux personnes qui viennent, donc je trouve quelque chose. D'accord? Et il y a deux personnes qui viennent. Il y a un qui m'amène des simanim, des signes distinctifs, et l'autre qui m'amène des témoins. L'autre qui m'amène des témoins, qui me dit, j'ai témoin que c'est à moi, d'accord? Des témoins qui prouvent que l'objet est à lui. Bien qu'on a dit que les simanim, bien qu'on a dit que les signes distinctifs sont valables selon la Torah, donc puisqu'ils sont valables selon la Torah, en fait, vous pouvez prendre la Gemara là-bas, parce qu'il sera pas là, monsieur Siksik, aujourd'hui.
Monsieur
Bismuth. Siksik.
Non.
Michel Siksik. Oui, celui qui vient en moto, toujours.
Ah, il s'appelle Siksik?
Oui, Michel Siksik. Donc, donnez une Gemara à Jonathan.
Jonathan
Akatan. Une chanson en hébreu, Jonathan Akatan. Donc, Inaten et Valaedim. Quel est le chidouche de la Gemara? Le chidouche de la Gemara ici, d'accord? Bien que les simanim, on nous a appris que les simanim sont de la Torah, les témoins c'est toujours mieux. Le Maharam Shif explique encore plus loin que ça. Le Maharam Shif il dit que même si on a des simanim mouvhakim, c'est quoi un siman mouvhak? On a étudié la semaine dernière, c'est un siman pertinent. Un siman pertinent, ça veut dire un siman que c'est comme le numéro IMEI d'un téléphone, tu peux pas aller passer à côté. C'est un siman pertinent, que normalement c'est une valeur de témoin. Le Maharam Shif nous dit que même dans ce cas-là, s'il y a des vrais témoins de l'autre côté, un vrai témoin est toujours plus fort. Donc s'il y a deux qui se présentent, un avec des témoins, et l'autre avec des simanim, c'est celui qui a amené les témoins qui importe.
Pourtant, ça peut être des faux témoins.
Bien sûr, pourtant c'est pas des faux témoins, pourtant les simanim peuvent être des bons simanim. C'est parce que c'est pour nous montrer qu'en vérité, pourquoi les simanim sont valables? Parce que les simanim ressemblent aux témoins. Mais quand on a le vrai, l'original, on a des vrais témoins, il n'y a rien de plus fort que ça. Continue. Il dit maintenant, si un a donné les simanim. Donc un, il donne les simanim. Donc pareil, je trouve un objet, il y a une personne qui vient, il y a Dove qui vient qui m'amène les simanim. Il dit voilà, simanim de mon objet, très bien, et il dit bon. Et il y a Yaakov qui vient de l'autre côté, d'accord? Ve simanim, ve adechad. Et Yaakov m'amène d'abord des simanim, Il y a même aussi un témoin. Là, c'est plus deux témoins, c'est un témoin. Alors, il faut savoir que normalement, un témoin, juridiquement parlant, ça vaut presque rien. D'accord ? Je dis presque rien, parce que dans certains cas, ça vaut quelque chose. Par exemple, dans un cas de... Quand, par exemple, une femme ne retrouve pas son mari, il est parti en voyage, il ne revient pas, même s'il y a une personne qui témoigne, qui dit « je l'ai vu, il était mort dans tel pays », c'est bon. Sur la base de témoignage d'une personne, elle peut se remarier. Donc il y a certains cas dans la Torah.
Pas avec le témoin.
D'accord ? Ça, bien sûr, évidemment.
Mais c'est pas sûr, parce que le témoin aussi peut mentir.
Tout le monde peut mentir. Les simanim aussi peuvent mentir. Peut-être que j'ai vu les simanim chez quelqu'un et je dis je vais profiter pour récupérer l'objet. Tout le monde peut mentir. Donc, on nous dit comme ça.
Oh. Et on a déjà donné.
Hmm, c'est ça ?
Hein ? Oui ?
Vous voulez voir, monsieur Bismuth ?
Oui, monsieur ? On écoute.
C'est Edhad. Si on a d'un côté, on a un qui amène des simanim, quand, et de l'autre côté, on a une autre, donc, d'un côté, on a Dov qui nous amène que des simanim, et de l'autre côté, on a Yaakov qui nous amène des simanim plus un témoin. Pas deux témoins, un témoin. Quel est le dîn ? Qu'est-ce qu'on lui dit dans ce cas-là ?
Ça dépend du témoin.
Un témoin.
Il a amené un témoin.
Un témoin cachère, pas de problème, d'accord ? Quelqu'un qui ne travaille pas dans la pub, quelqu'un vraiment de cachère, c'est cachère.
Je rigole. Je rigole.
Donc, Vesimanim, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là ? Edechad keman zerete dami. Un témoin, c'est comme si qu'il n'existait pas. Ça a valeur nulle. Donc ici, on a toujours simanim contre simanim. Donc puisqu'on a simanim contre simanim, qu'est-ce qu'on fait ? Veyaniach, il faut laisser l'objet. C'est-à-dire qu'on laisse l'objet, c'est-à-dire que je garde l'objet dans mon domaine. Je garde l'objet dans mon domaine jusqu'à ce que Eliyahu HaNavi va venir ou jusqu'à qu'on a d'autres éléments de preuve. Il faut savoir, c'est un principe.
Il n'y a pas un petit plus quand même.
Écoutez bien. Non, justement. C'est un principe, ça c'est Rashi qui explique, c'est un principe qu'on a dans toute la Torah, que dans Dîner Mamonot, dans tout ce qui est les dîmes d'argent, dans tout ce qui est financier, un témoin ne vaut rien. Sachez-le, c'est un principe, un témoin ne vaut rien. Ça n'existe. Ça veut dire que quand, par exemple, je vais voir Monsieur Bismuth, je dis Monsieur Bismuth, vous me devez de l'argent. Et j'ai un témoin qui approuve ce que je dis, c'est zéro, c'est walou.
Oui, d'accord.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des fois, un témoin peut nécessiter un serment. Par exemple, je vais voir M. Bismuth, je lui dis, Monsieur Bismuth, vous me devez de l'argent. D'accord ? Encore ? Monsieur Bismuth dit, non, je ne te dois pas. Peut-être qu'il ne se rappelle pas, il a oublié. J'amène un témoin qui dit qu'effectivement, il me doit de l'argent. Ce témoin ne vaut rien. C'est-à-dire, je ne peux pas déposséder M. Bismuth de l'argent qu'il a dans le compte en banque. Amen. D'accord ? Je ne veux pas le déposséder de cet argent, mais par contre, je peux réclamer à M. Bismuth qui me jure au Beddin, d'accord, parce que là j'ai quand même un élément de preuve. Ok, il est nul, mais c'est quand même un certain élément de preuve. C'est un début de preuve. C'est comme un fax, vous voyez, un fax. On peut pas vraiment attaquer quelqu'un en justice avec un fax, mais on peut démarrer une procédure. D'accord ? On peut démarrer une procédure, je ne sais pas pourquoi.
Par mail, mais par fax.
Voilà, je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'il y a le email, maintenant le fax est devenu Kadosh Vetor. Pourtant, un fax, ça peut se falsifier, ça peut se...
Non, parce qu'il y a un contrat. Il y a la ligne qui a envoyé.
Non, mais à ce moment-là, c'est un contrat.
Quoi ?
Quand je signe un contrat.
Ouais, bon.
Je peux le falsifier aussi.
Et le email aussi, je peux envoyer une pièce jointe par...
Ah ben justement.
Ça marche pas.
On n'est pas chez la personne encore adoptée d'email.
C'est pour ça que l'email n'est pas adopté, le fax est adopté.
Ouais.
Il faut faire signer des contrats par fax.
C'est pour ça d'ailleurs, quand la question avait été posée au Rav Pevner, à la Vache à l'Homme, il m'a demandé est-ce qu'on peut envoyer Nifta.
Quand ?
Ça fait un an déjà.
Ouais, c'est un an.
Quand on lui a posé la question, on lui a demandé est-ce qu'on peut envoyer l'acte de procuration devant du Hametz par fax ? Quand on lui a posé la question, il a répondu oui. Il a écrit une longue réponse. Il a écrit une longue réponse pour démontrer qu'on peut. Comment il a expliqué ? Parce qu'il a montré que même juridiquement, dans la loi du pays, sur ces halakhot-là, il faut se baser sur la loi du pays. Dans la loi du pays, on voit qu'avec un fax, à l'époque, on pouvait pas. Un fax, c'était pas un élément de preuve. Un fax, on pouvait seulement démarrer une procédure avec. C'est-à-dire que je peux attaquer quelqu'un, je peux démarrer une procédure, mais ça peut pas être la preuve finale. Apparemment, vous me dites qu'aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, un fax...
Ça fait déjà un bout de temps qu'il est...
Même les prélèvements bancaires, quelqu'un le signe, il signe un contrat, il signe un prélèvement bancaire par fax, c'est accepté par la banque.
D'accord, c'est accepté, mais est-ce qu'ils peuvent m'attaquer en justice avec un fax ?
Je ne sais pas.
C'est reconnu authentique au jour d'aujourd'hui.
Si tu peux récupérer un règlement par prélèvement, certainement que c'est valable.
Bon, pour ça, c'est d'accord. Bon, en tout cas, alors, simanim ve'edecha, donc on a un principe que normalement, un témoin ne vaut rien, d'accord ? Un témoin ne vaut rien dans tout ce qui est mamonote, dans tout ce qui est de l'argent, d'accord ? Alors, Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? C'est pour ça qu'on nous dit que, dans ce cas-là, on nous dit ici que Simanim Ve'edecha, donc s'il y a un qui a des Simanim et l'autre qui a Simanim et un témoin, le témoin, on fait comme si il n'est pas là, et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'objet, je garde l'objet chez moi à la maison, je trouve qu'il y a plus d'éléments de preuve. Maintenant, on continue. Toujours Rava. Ede Ariga, Ve'ede Nefila. On est toujours avec Dov et Yaakov. D'accord? Dov et Yaakov. Il y a Dov qui m'amène les témoins de Ariga, ça veut dire qu'il me témoigne. Il dit, voilà, il y a des gens qui m'ont vu quand j'ai tissé ce vêtement. Il amène des témoins qui l'ont vu tisser ce vêtement. Ah, c'est un super signe. Et l'autre, Yaakov, de l'autre côté, Ve'ede Nefila. Yaakov a un signe que, il n'a pas de signe que c'est lui qui a tissé le vêtement, mais il a un signe qui montre que l'objet est tombé de chez lui. C'est-à-dire que l'objet était chez lui juste avant le moment qu'on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le din? Tinaten l'Eden Fila. À qui on le donne? On donne au témoin, donc on donne à Yaakov. Pourquoi? Damrinan, parce qu'on dit, c'est vrai que Dov, tu es les témoins, que tu as tissé le vêtement, mais Zabudin Zavna, peut-être que tu l'as vendu. Peut-être que tu as vendu ton vêtement à Yaakov.
Ça ne m'étonne pas toi qui dis là, j'en étais sûr.
D'accord. Donc Zabouine Zavna. Ou Meini, Shacharin. Non, mais des fois on oublie. C'est pas, on ne parle pas de menteur ici. Des fois, nous on n'a pas le choix. Nous, pour nous, tout le monde est menteur et tout le monde dit la vérité. On est obligé de se baser sur les faits qui nous sont présentés devant. Donc Zabouine Zavna. Zabouine. Zaban en araméen, ça veut dire ventre.
Ah.
D'accord. Comme Khaz Gadia, des avines. Ça vous dit quelque chose? Le Khaz Gadia, on dit chaque fois le mot Khaz Gadia, comme un chevreau. Ça, c'est le Khat Gadien. Des Zabin, Ababi, Trezou, Zabin, c'est quoi Zabin?
Zabin,
c'est ça. Acheté.
Zabin, alors c'est Zabin, c'est parce que ça dépend de la manière comment on le formule, mais ça peut vouloir dire ou acheter ou vendre. D'accord. Zabin, Zaban.
Zabin, d'accord. Zaban.
Voilà, justement, parce que dans les la manière comment on formule, c'est comme malvé et lové. Malvé et lové, ça peut vouloir dire prêteur, emprunteur.
On va dire c'est le mot négocié. Voilà. Il a négocié.
Il a négocié ou il négocie.
Voilà, donc c'est dans les deux sens.
Donc Zabouné, Zavna.
Zabouné.
Je vais dire qu'il a vendu. Omeini Shacharina Nafal, et peut-être qu'il est tombé d'une autre personne, donc de Yaakov. Donc c'est pour ça que si on a le témoin de celui, un témoin qui a tissé, d'accord, qui amène, donc, si on a par exemple Dov qui amène des témoins que c'est lui qui a tissé le vêtement, et Yaakov qui amène des témoins que c'est lui qui apparemment l'objet était chez lui, d'accord, il m'amène pas des témoins que l'objet est à lui, il m'amène des témoins que l'objet était chez lui avant de tomber. On aurait pu dire le contraire. On aurait pu dire peut-être que Dov l'a prêté à Yaakov, et que Yaakov l'a fait tomber. On peut dire ça aussi.
Il l'a mis en dépôt chez toi.
Peut-être qu'il l'a mis en dépôt chez toi. Peut-être qu'il te l'a prêté.
Il l'avait seulement mis en gage.
Peut-être qu'il te l'a prêté.
Tu l'as prêté de l'argent.
Il te l'a prêté et d'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Nous on se base sur celui qui a les témoins les plus avancés. Donc celui qui a les témoins les plus avancés ici, la preuve la plus avancée, c'est Yaakov, donc celui qui garde l'objet. Encore un autre cas de Rava. Si un il donne, ça c'est des cas qui sont ramenés en Shulchan Aruch. Hein. Midat Orko ou Midat Rorbo. Si maintenant on a donc toujours Dov et Yaakov. On a Dov qui nous donne les simanimes, si ça vous dérange pas, quoi. D'accord? Midat Orko, Midat Orbo.
C'est mon avis, et pas, c'est celui qui devrait être dérangé.
J'ai dit vous.
Mon paquet de Marlboro, il me voit pas encore.
Donc, faut pas faire de la Gemara pour comprendre ça, hein. Donc, Midat Orko, Midat Orko, Midat Orbo. S'il y en a un qui dit, Midat Orko, ça veut dire, il donne la longueur de l'objet. Donc, on parle d'un talit, par exemple, d'un vêtement, il dit voilà, l'objet, le talit, il faisait 1 mètre de long. D'accord? 1m50 de long. Et un deuxième, il vient, il donne la mesure de la largeur du vêtement. Maintenant, personne n'est capable de donner les deux. D'accord? Un, il donne la longueur, l'autre, il donne la largeur. Donc, on va essayer d'analyser ensemble, nous dira va. D'accord? À qui va appartenir l'objet? Qui peut être le vrai propriétaire ici? Puisque les deux, apparemment, hein, c'est-à-dire, regardez ce qu'il dira va. Tinaten, les midat orko. On donnera le vêtement à celui qui donne la longueur. Pourquoi? Des midat orbo, Chiouré comme cher là. Pourquoi? Parce que la largeur d'un vêtement, on peut le mesurer facilement. Pourquoi? Kad mikasele maravekae. Quand on voit que on parle d'un talit ici, quand on voit que le maître, donc le vrai propriétaire, est enveloppé avec son talit, on peut estimer assez facilement la largeur. D'accord? Parce que la largeur, y a pas où aller, quoi. Alors que la longueur, umidat orko lomishter là. Alors que la longueur, c'est plus difficile. Pourquoi? Vous avez remarqué dans le talit. C'est très difficile à estimer la longueur d'un talit en le voyant sur quelqu'un. Parce qu'il est devant et derrière. D'accord? Donc c'est plus difficile. Pour connaître la longueur d'un talit, il faut être le propriétaire. Il faut être le vrai propriétaire. Parce qu'un talit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais longueur et largeur, c'est pas la même chose.
Oui. Hein, vous avez dit.
Oui, parce que bon, c'est vrai qu'il y a les talits du marché aujourd'hui. talits du marché aujourd'hui, en fait, ils sont pratiquement carrés. Mais normalement, dans un talit, c'est pas comme ça. Normalement, un talit est plus long que large, parce qu'il descend plus bas.
Et pas plus long
que large.
À l'époque, c'était sur mesure ou c'était...
Le talit est comme ça en général.
C'était que du sur mesure à l'époque.
Parce que le talit, il descend plus bas.
Oui, mais...
C'est pas autre chose que du sur mesure.
D'accord.
Bon. Donc, c'est... Alors, maintenant, bien sûr, tu as raison. Dans ce cas-là, d'accord, si tu me dis que si on arrive dans un cas maintenant dans lequel on n'a pas le... Si on arrive dans un cas dans lequel... Alors, midat or, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? De midat orbo, shiure kamesher la, kad michasela marevekae, ou midat orko le mishtaer la. Donc, la longueur, on ne peut pas deviner, mais la largeur, on peut deviner. Donc c'est pour ça qu'on se dit, peut-être qu'il y a celui qui dit la largeur, peut-être c'est un menteur. Peut-être c'est un menteur, ou peut-être qu'il croit que c'est à lui, alors qu'on va dire que ça ne lui appartient pas. Celui qui dit la longueur a un meilleur signe. D'accord? A un meilleur signe. Très bien. Où on en est ici dans les mots? Je ne sais pas où on est dans les mots chez vous.
Tout en bas.
Très bien. Donc tout en bas de la colonne de...
De la colonne de droite.
La colonne de droite. Continue. Maintenant, si un il donne, chaque fois que je donne des cas, il faut essayer d'analyser le cas. Ça, parce que si Rava nous le dit, c'est parce qu'il y a une analyse, on aurait pu dire le contraire. Deuxième cas qu'il nous donne, donc autre cas qu'il nous donne Rava. Je ne compte plus.
52.
D'accord? Donc il dit... Midat orko, midat orbo. S'il y en a un qui vient et qui dit midat orko, midat orbo, ça veut dire qu'il donne la longueur et la largeur. Donc on est toujours Dov et Yaakov. Dov, il donne la longueur et la largeur. Et Yaakov, il vient. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne midat gamav. C'est-à-dire qu'il nous donne gamav. D'accord? Il nous donne la mesure du... Comment il traduit ça en français?
Gamav. La longueur postale, on va dire.
La longueur, pardon?
La longueur cumulée.
Non, mais voilà. La mesure cumulée. Bon, en grec, on appelle ça gamma. Je sais pas, je suis curieux de savoir s'il y a un mot en français. Ça, je vous pose la question.
Cumulé.
C'est la superficie.
La superficie.
Non,
c'est pas
périmètre. Trois tailles
cumulées.
Longueur, largeur, profondeur.
Il fait 2 mètres carrés.
C'est comme ça qu'on
fait à côté. Il parle du périmètre. Il parle de ça plus ça.
Là, quand on parle de gamma, d'accord, gamma, ça veut dire la longueur et la largeur ensemble, en même temps.
Il n'y a pas deux longueurs et deux largeurs.
Oui, mais là, c'est la moitié périmètre.
Moitié périmètre, très bien.
Périmètre divisé par 2.
Alors pourquoi le gamma, vous savez à quoi ça remplace, vous savez c'est quoi le gamma? Le gamma,
c'est la lessive.
Le gamma en grec, c'est une lettre qui ressemble au Chaf Sofit. C'est comme ça.
Gimel?
Non. Gamma en grec, c'est une lettre qui ressemble au Chaf Sofit. Comme ça et comme ça.
C'est pour ça qu'on appelle ça un gamma.
C'est pour ça qu'on appelle
le
gamma.
Donc gamma du...
Donc c'était une... À l'époque on appelait ça comme ça, quand on appelait le gamma, bah, c'était la méthode de calculation. Donc... Qu'est-ce qu'on dit à qui on donne? D'accord? Ils n'atteignent les midat orko verambo. On donne à celui qui donne la longueur et la largeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a un qui vous dit, voilà, le talit il fait environ 1m50 carré. Et il connaît pas la longueur et la largeur exacte.
Pas de carré.
D'accord?
Pas carré, d'accord.
Mais c'est-à-dire, il donne la superficie du talit. Je pense que la superficie c'est une bonne traduction. Il donne la superficie générale du talit, mais il n'est pas capable de donner les mesures exactes. Mais il dit, voilà, le talit il fait ça. Talit il est comme ça. Et l'autre il te dit, non, exactement, la longueur était comme ça, la largeur était comme ça. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, celui qui est plus précis, il passe avant. Donc là, c'est toi dans ce cas-là. Comme tu as donné la longueur et la largeur précise, tu as donné voilà telle longueur et voilà telle largeur, tu as été plus précis, donc tu as plus de chances que ça à toi. D'accord?
J'arrive pas à savoir ce qu'il a dit le deuxième, mais c'est pas grave.
Ce qu'il a dit le deuxième, d'accord, ce qu'il a dit le deuxième, gamma, alors je sais pas, c'est pour ça que je vous ai demandé, je sais pas si on calcule comme ça aujourd'hui. Gamma, à l'époque, c'était une méthode de calculation qu'on donnait,
Non, c'était en Israël.
En anglais, on dit calculation. D'accord? En anglais, on dit calculation. C'est une méthode de calcul, d'accord?
En anglais,
qui dit, en allemand. Qui dit qu'on compte la longueur plus la largeur. C'est-à-dire, quand on veut acheter un objet, on te dit directement...
La longueur plus, donc on, ouais, périmètre divisé par deux. Ce n'est pas la surface.
La longueur plus la largeur.
Si la longueur plus la largeur, périmètre divisé par deux.
C'est pas pareil. Oui. Longueur, regardez. Imaginez-vous qu'on a un talit qui fait 1 mètre de largeur, d'accord, sur 1m50 de longueur.
Voilà.
En gamma, ça fait 2,50.
Ouais, voilà. C'est bon, c'est sûr. D'accord.
Donc c'est quoi ça? Comment ça s'appelle en français?
Ça s'appelle pas.
C'est longueur.
Même dit, on s'en sert pas.
D'accord. En tant que ça s'appelle. À l'époque de la Gemara, on s'en servait, ça s'appelait le gamma. Voilà.
D'accord.
Vous voulez savoir.
Donc, c'est bon.
Donc il y en a un qui dit 2m50. Et l'autre qui dit, non, il dit 1 mètre de largeur et 1 mètre 50 de longueur. Non, à qui on donne? On donne à celui-là. Pourquoi on donne à celui-là? Parce que celui-là, il a plus de signes.
Oui.
D'accord? Il se rappelle plus de détails. Et plus on a de détails, plus on montre que ça a soit l'objet.
D'accord.
Autre cas. Si maintenant, d'accord, midat orko, midat orbo, donc un il donne la mesure donc de la longueur et de la largeur, donc pas cumulé, il donne un, il donne donc il dit voilà, un mètre de largeur, 1,50 m de longueur, et le deuxième, il donne midat mishkel lotav, et l'autre il donne le poids. Donc sur un vêtement, c'est peut-être pas le cas, d'accord, mais il donne le poids. Et le poids de quoi? Le poids du vêtement. Ah, c'est chaud, là. Le gars, il a pesé son vêtement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rava? Inaten le midat mishkelotav. On donne à celui qui donne la mesure de son poids. Pourquoi? Parce que le poids, c'est toujours un siman qui est plus pertinent, parce que personne n'a l'habitude de peser les vêtements.
Ouais,
on peut commencer commencer à douter, parce que si tu lui donnes le poids, c'est qu'il a déjà peut-être envisagé un jour qu'il
peu...
allait arriver dans un cas
alors,
pareil.
Justement, donc ça y est, ça, on avait un tosfot, d'accord.
Un costard de 2,857 kg, s'il vous plaît.
Donc on avait un tosfot ici, Midé Mishkal, d'accord, dans la page 23B, il y avait un tosfot là-bas qui s'appelait Midé Mishkal, et là-bas, tosfot, il avait un développement pour expliquer que, de manière générale, toujours, le poids, c'est une meilleure mesure, et c'est un meilleur siman que la longueur et la largeur. Pas seulement dans les vêtements, toujours en général. C'est-à-dire que même quand on parle d'un meuble, quand on parle d'une chaise, de ce que vous voulez, toujours le poids, c'est un signe qui est plus fort, parce que celui qui pèse, celui qui connaît le poids d'un objet, c'est celui vraiment qui connaît bien l'objet.
Quand on voit un objet, on peut définir à peu près sa longueur et sa largeur, mais quand on ne peut pas définir son poids.
Le mec, il a perdu un bouton, hop, il a tout faux. C'est plus le bon poids.
Vous avez perdu, monsieur Thor.
Donc,
mais c'était le poids.
Maintenant, Rava, il continue.
Il
d'accord. Selon ces principes-là, tu as raison, mais nous, on se base sur ce qu'on a devant nous. Il se base sur ces principes-là, et il va nous donner le din d'un guet qui a été perdu. Donc, on va retourner un peu à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, à l'histoire d'un guet qui a été perdu. D'accord. Rappelez-vous, c'est quoi l'histoire? Il y a le mari qui veut divorcer sa femme, il envoie un guet par un shliach, par un émissaire, l'émissaire perd le guet, d'accord? L'émissaire perd le guet, et nous on retrouve le guet. Alors le problème qu'on peut avoir, un guet c'est un acte de divorce. Le problème qu'on peut avoir c'est quoi? D'accord?
C'est un pâle.
C'est quoi? C'est que des fois on peut arriver à une situation que et le mari et la femme vont dire le guet nous appartient. La femme va dire le guet m'appartient, je suis déjà divorcé. Le mari va dire non, le guet m'appartient, je ne l'ai pas encore divorcé.
Je ne l'ai pas encore divorcé.
D'accord.
Ouais, il est venu. Aïe.
Tiens, alors tu vas lui rendre Jonathan. Donc.
Coupé en deux.
Partage. Ouais, on partage.
Donc ça, c'est l'histoire du guet. D'accord. Bon. Donc, rappelez-vous, on a le mari. Donc on peut avoir le mari qui dit que c'est vrai que j'ai écrit ce guet, mais je ne l'ai pas encore donné, et entre-temps j'ai regretté, et il y a la femme qui dit non, j'ai déjà reçu. Et nous le Beit Din, on est entre les deux. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui croit. Donc Rava va se baser sur les principes qu'on vient de dire maintenant pour essayer de déterminer à qui appartient le guet. Regardez ce qu'il dit Rava. Ou, si le mari, quand le mari dit que le guet est tombé de chez lui, ça veut dire qu'il n'a pas encore donné le guet, donc la femme n'est pas divorcée. Et Omer simané à guet. Donc le mari, il donne les simanimes du guet. Il dit voilà, le guet était exactement comme ça. Il donne des signes distinctifs. Vehi et la femme, Omer est simané à guet. La femme également donne exactement les mêmes simanimes. Oui, le guet, il avait un trou ici, il était corné ici, taché ici. Des simanimes, des bons simanimes distinctifs. D'accord ? Là, un parchemin, c'est très facile à reconnaître. Il y a toujours des signes distinctifs. C'est pas comme le papier que tous les papiers se ressemblent. Donc elle a un siman. Des fois on a un trou, des fois on a une lettre qui est mal formée. Elle a... Les deux amènent des simanimes.
Grave à cet endroit.
Ah c'est non, ça il faut pas. Ça. Sinon il est pas caché.
C'est une faute d'orthographe.
Ah, oui, c'est le chaliard qui l'a perdu. Le guet est très spécial. Oui.
C'est le chaliard qui l'a perdu. Quoi,
une faute d'orthographe, le type.
Pour divorcer.
Alors que dans le
mariage non.
Pour le mariage non, il peut y avoir des fautes d'orthographe machin. Mais c'est un guet. On essaie de trouver tous les trucs justement pour pas qu'il soit.
Il a marqué une auto. Il a mis OTO.
Le guet. D'ailleurs les gens qui. D'ailleurs c'est pour ça que la Gemara nous dit que tout celui qui ne sait pas, tout celui qui n'a pas pris toute la halakhot de divorce, qui ne touche pas à ça. Parce qu'il y a tellement de halakhot, de détails, etc. Juste pour vous dire, il y a une grande machloket qui avait dans Shulchan Aruch. Est-ce que le mot Akiva et le mot Yehuda, est-ce qu'il s'écrit avec un Aleph à la fin ou un He à la fin? C'est une grande machloket qui a divisé le peuple juif pendant longtemps. Alors aujourd'hui, ouais. D'accord? Parce que il y avait dans le monde Ashkenaz, si tu n'écris pas le bon prénom, la femme n'est pas divorcée. D'accord? Alors, un de ceux qui a conclu la marloquette, c'est Rabbi Akiva Eiger. Il a conclu, Rabbi Akiva Eiger, il a conclu que Akiva on écrit avec un Aleph. D'accord, c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui d'ailleurs. Et Yehuda, non. Yehuda, lui, il écrivait avec un Aleph. Chez les Ashkenazes, savoir, sachez-le, chez les Ashkenazes dans les guettes, il y a beaucoup d'Ashkenazes, on écrit Yehuda avec un Aleph. Chez les Sfaradim, c'est resté avec un Hé. C'est à la fois très compliqué, qu'il faut connaître. Si tu connais pas, tu peux pas, il y a nulle part où aller.
Donc, c'est pour...
Dans le Chumash, il y a un Hé. Mais on se base pas sur le Chumash, on se base sur l'habitude des gens. Comment les gens l'écrivent. C'est une grande marloquette. C'est une grande marloquette qui est dans Shulchan Aruch d'ailleurs. Dans le, vous verrez dans, enfin, dans Shulchan Aruch, on étudiera si Dieu veut. Il y a dans les lois de Gittin, d'accord, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ça veut dire Dieu.
Non, dans le Tanakh, il est écrit avec un E, oui. Et on le dit, pourtant, on pourrait se baser sur le Tanakh pour dire que...
Non, parce qu'on se base, on se base sur la manière comment les gens écrivent. C'est ça le problème. Et dans Shulchan Aruch, dans les lois de Gittin, il y a un long siman, très très long, d'accord. Un long siman, c'est un très très long chapitre qui parle juste des noms, comment écrire les noms. Pour vous dire à quel point c'est important. Donc faute d'orthographe, surtout
oui,
pas.
C'est l'identité de la personne, hein.
Bien sûr.
Identité, bon, identité. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire ma carte d'identité, j'avais toujours écrit sur ma carte d'identité Menachem Mendel, donc Menahem Mendel, et là, tout d'un coup, ils m'ont écrit, au lieu de Menahem, ils m'ont écrit Memahem. Pourquoi? Parce que dans mon acte de naissance, comme s'ils écrivaient à la main à l'époque, ils ont écrit, il y a le deuxième M, d'accord, le N de Menahem, ils l'ont écrit d'une manière que ça peut se comprendre comme un N, et ça peut se comprendre comme un M. Donc ils m'ont dit, pour nous c'est Memahem. Et ils m'ont laissé Memahem partout maintenant, sur la sécu, partout c'est Memahem. Je leur ai dit, mais je m'appelle pas comme ça. Ils m'ont dit, ben vous pouvez envoyer une lettre au procureur ou à je sais pas qui pour les changer. Memahem.
Ah ouais, Memahem. Ouais,
parce que j'ai vu l'acte de naissance, c'est dans le livret de Samus, ça veut dire, c'est une la manière comment c'est écrit, c'est un N, vous savez, des fois il y a des N qui peuvent ressembler à des M. Parce que c'était écrit à la main à l'époque. Bon, en tout cas. Donc un, il dit, le
main... écrit à la main.
Toujours écrit à la main.
Pour l'acte de naissance des enfants, ça a été écrit à la main.
Mais qui était bourré, celui...
Des fois, il y a des noms qui changent, qui s'appellent Suède, des noms comme ça.
Moi, mes enfants, c'est écrit à l'ordinateur.
C'est écrit à l'ordinateur.
Ouais. Donc, nous dit comme ça. Si le mari donne les simanimes du guet, et la femme, elle donne les simanimes du guet. À qui on donne? D'accord. On donne à qui on donne, nous dit Rava. Rava, il nous dit qu'on donne à la femme. Inatenla, on le donne à la femme. Pourquoi? Parce que si le mari n'a pas encore donné le guet à la femme, comment, d'où la femme, elle connaît les simanimes? Le mari, c'est normal qu'il les connaît, parce que c'est lui qui l'a fait.
Elle l'a aperçu. Il a montré, il a dit, voilà ce qui t'attend.
Très bien.
Tu casses les pieds.
Bonne question.
Elle a tout vu.
En tout cas, pour l'instant, la Gemara nous dit Rava, a priori. Qu'est-ce que nous dit Rava pour l'instant? Rava, il nous dit que, a priori, si la femme connaît les simanimes du guet, c'est-à-dire qu'il a donné, sinon elle a aucune raison de les connaître. Alors, Mara pose la question.
Je comprends pas le cas là.
Attends.
Le cas là.
Mara pose la question tout de suite. Il dit mais Maï. Attends. Deux secondes. De quel simanime tu parles? De quel simanime? Et Lima, si tu vas me dire qu'on parle de Midat Orko Verorbo, si tu me dis que le signe que donne la femme, qu'est-ce qu'elle donne comme signe la femme, elle donne la mesure de la longueur et de la largeur, dis voilà, le guet il avait telle taille, A5. Voilà, tu m'as écrit sur un A5, ou sur un A4, ou sur un A3,
bon,
d'accord?
Aperçu.
D'accord? Alors, exactement, Dilma, bah, Dedena quitte l'Echazité. Peut-être que la femme a vu le guet quand le mari est encore dans la main de son mari. Même pas sans arriver à ce que monsieur t'a dit, qu'il a montré, voilà ce qui t'attend. Non, elle l'a vu dans la main de son mari. D'accord? Les mesures, c'est très facile à voir. Les dimensions.
Le fait qu'il a fait écrire par un
écrit. Et là, public. Seulement.
Il n'a pas encore signé.
Alors, autre cas qu'on peut. Ok, donc le simanime ne peut pas être, le simanime ne peut pas être les dimensions. Parce qu'une dimension, c'est peut-être la femme a déjà vu les dimensions. Donc c'est pas un simal. Et là seulement, peut-être, en un autre cas, que peut-être, que la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Nekaviejbo betsat od ploni. Ah. La femme va dire, il y a un trou dans le guet, à côté de telle lettre. Encore une fois, n'oubliez pas, dans un parchemin, il y a beaucoup d'imperfections. Et on le voit même dans un Sefer Torah, d'accord? Dans un Sefer Torah, même si c'est un parchemin qui est travaillé, mais on voit que les parchemins sont pas tous de la même qualité, il y a des taches, etc. C'est parce que un parchemin, par nature, c'est une peau d'animal, donc c'est jamais, il y a jamais un parchemin qui ressemble à l'autre. Très bien. Et donc un parchemin aussi qui est abîmé, il peut avoir un trou. Donc peut-être.
Il n'y a pas de trou. À qui on le donne?
Une seconde. Donc là, on dit quel siman il peut être. Le siman de la dimension, ça peut pas être un bon siman. Donc on peut rien faire. On considère que ça appartient peut-être au mari, peut-être à la femme, donc on peut pas savoir. Ok. Alors peut-être que la femme a donné un signe qui est assez distinctif, dans lequel elle dit que il y a un trou à côté de telle lettre. Que là, a priori, c'est sûr que le mari lui a déjà donné le guet. Parce que si le mari lui a pas donné le guet, comment, d'où elle sait qu'il y a ce semaine-là? C'est pas tout ce qu'on voit. Second. Là, c'est plus logique déjà. Là, il faut s'accrocher pour faire ce dessin. Deuxième cas possible. Ou Omer, d'accord, Simané Achout, Vehi Omeret Simané Achout. Bon. Donc là, déjà, on nous a dit, si la femme, elle donne un siman qui est très distinctif, par exemple, elle dit, il y a un trou à côté de telle lettre, on considère que c'est sûr que le mari l'a déjà donné. Deuxième cas que nous dit Rava. Si le mari donne les signes du fil avec lequel le guet est attaché, parce qu'il faut savoir que le guet, avant de le donner, on devait l'attacher, d'accord, avec un fil, c'est une manière de le verrouiller, et la femme donne aussi les simanimes distinctifs du fil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Inatenla, on le donne le guet à la femme. Pareil, parce qu'on dit, parce que si il n'y a pas encore donné le guet, d'où elle connaît les simanimes? Alors, Gmara pose le même type de question, il dit, Bemaï, quand tu me dis les simanimes du fil, d'accord, de quel simanim tu me parles? Et Lima, si tu vas me dire que Bechivara ou Vesumka, c'est parce qu'elle a dit, la femme a dit, oui, le guet est attaché avec un fil de couleur blanc ou de couleur rouge. Fil rouge. D'accord, Sumka, c'est en araméen, c'est rouge. Vedilma, pareil, même question, mais c'est dispute. Vedilma, bah, des nakite chasité. Peut-être que quand la femme a vu le guet dans la main du mari, elle a vu qu'il y avait un fil rouge dessus. Elle dit, tiens, ça porte bonheur. D'accord, elle a remarqué, fil rouge, fil blanc. Et là seulement, hein.
C'est sa maîtresse qui lui a offert.
Et là seulement.
Qu'est-ce que tu veux que je te dis?
Et là seulement. De Midat Orko. D'accord? De quoi on parle ici? De Midat Orko, nous dit Rava. En vérité, c'est peut-être que quel siman la femme a donné? La femme a donné la longueur du fil. Elle dit, voilà, il y a un fil qui faisait un mètre. Voilà, on l'a attaché sa guette avec un fil qui faisait un mètre.
Donc il n'était même pas noué autour?
Voilà, donc ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire que la femme l'a déjà dénoué. Parce qu'il faut savoir que quand c'est un parchemin, on peut dénouer, le renouer, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est pas comme un tissu. Parchemin, on fait un trou pour donc on peut le nouer, le dénouer autant de fois qu'on veut. Donc si la femme a donné la longueur du fil, là on peut plus dire la même chose. Là on peut plus dire que la femme l'a vu dans la main du mari, parce que quand elle le voit dans la main du mari normalement, elle le voit quand le fil est déjà attaché. Donc là si elle connaît la mesure du fil, certainement que le guet lui appartient. Donc ça c'est ce que Rava a dit. Troisième cas, qui nous dit Rava, ou Omer Bachafissa. Lui il dit, le mari il dit, oui, le guet était dans un petit, donc rafissa, ça veut dire un petit sac en cuir, je sais pas comment il traduit ça en français.
C'est comme
ça. Un petit sac, d'accord, en cuir, dans un étui, dans un étui en cuir. Le gars, il a donné un guet à sa femme dans un étui en cuir. Vous voulez faire bien les choses.
C'est comme le whisky 15
ans d'âge, j'ai jamais rien offert dans un étui en cuir, juste le guet, il lui donne.
Il lui donne le guet dans un étui en cuir.
C'est toujours ma question qui reste en suspens. Hein. Je veux savoir de quoi on parle là. Comment et quand on arrive à cette situation-là.
On a trouvé un guet dans la rue. On a trouvé un guet
dans la rue.
Dans la rue, on trouve un guet. On l'amène au Beddin, on convoque le mari et la femme. Le mari il dit, je ne l'ai jamais donné le guet, je l'ai écrit mais je ne l'ai pas encore donné, donc je ne l'ai jamais divorcé. La femme a dit, si, je l'ai reçu, je suis divorcé.
Et donc la femme a dit, c'est moi qui l'ai perdu.
Oui. C'est quoi le Beddin?
Et donc c'est la femme qui veut divorcer là.
Mais la femme, elle ne peut pas divorcer, la femme a dit, je suis déjà divorcé, rendez-moi mon guet. Je veux pas de ce mari, je suis déjà divorcé. J'ai déjà assez souffert, laissez-moi tranquille.
D'accord.
Quand?
Et le mari il dit, non, en fin de compte.
Le mari il dit, non, je vais la faire souffrir encore, non, je rigole.
Elle mérite.
Le mari dit, non, je l'ai pas divorcé, je l'aime toujours, je voulais, j'avais pensé, mais je l'ai pas divorcé. Qu'est-ce que fait le Beddin? Le Beddin il est devant et il est bloqué. Donc on va essayer de trouver des signes distinctifs.
Ah d'accord. Parce que tu parlais tout à l'heure d'un chaliar. Ah, le chaliar
oui,
l'aurait perdu.
Pareil, même chose.
Mais c'est le chaliar qui dit que je l'ai perdu, donc on sait très bien que c'est la même femme qui n'a pas reçu.
Peut-être que le mari dit je lui ai donné un chaliar, et que le chaliar, le mari dit moi je pense que le chaliar l'a pas encore donné à la femme, et la femme a dit si, l'a déjà donné, j'ai déjà reçu, la preuve.
Il n'y a qu'à convoquer le chaliar.
Il est mort.
Le chaliar il a perdu le guet.
Il est mort.
Il est mort, il est plus là. Il est parti à New York. On va pas aller jusqu'à New York pour le chercher.
Surtout à l'époque.
Donc,
on l'envoie un SMS.
Écoutez bien le troisième cas qui nous dit Rava. Ou Omer Bachafissa. Le mari dit, d'accord, que le guet était dans un petit sac en cuir. Grande classe, il doit faire le sac en cuir
Chanel,
voilà. Veille Omeret, et la femme elle dit, Bachafissa dit oui, je me rappelle, c'est vrai qu'il m'a divorcé, mais Chanel, d'accord. Inatenlo, on lui donne le guet à qui? Au mari. Pourquoi? Maïtahama, quelle est la raison? Parce que Meidayada, la femme, elle sait, des rolma de Hitler, que tout ce que le mari avait d'important, Bah, Rafissa ou des Manachli.
Il lui a offert que des trucs dans les sacs.
Parce que la femme, elle sait que c'est un homme, que tout ce qu'il met, il met dans son sac en cuir. Tu comprends? Donc, quand il lui dit, c'est un sac qu'il avait standard, une petite pochette en cuir à la grande place. D'accord? Donc, le fait que la femme dit, oui, il était dans un sac en cuir, c'est pas une preuve. Parce que la femme savait que le mari met toujours ses documents importants dans un sac en cuir. Donc, c'est pas une preuve. Et puis, c'est pas une preuve. Par défaut, on le donne à qui? On le donne au mari, puisqu'on n'a pas de preuve que le guet a été donné. Faut bien comprendre. Le guet, il est obligatoirement passé par la main du mari. Et notre question ici, c'est est-ce qu'il est déjà arrivé dans la main de la femme ou pas? Donc, qu'il était dans la main du mari, ça on a une preuve. On est sûr qu'il était dans la main du mari. Mais on ne sait pas est-ce qu'il est déjà passé de la main du mari à la main de la femme. Donc, avec les preuves qu'on a ici, on essaye de déterminer est-ce qu'il est passé de la main du mari à la main de la femme. Donc, si la femme a une preuve qui montre que cette deuxième étape est déjà arrivée, on lui donne le guet. Mais si c'est des cas dans lesquels on ne peut pas prouver, puisqu'on ne peut pas prouver, donc on ne lui donne pas le guet.
Et donc, on a des témoignages que le guet a été donné à la femme.
Ah là, c'est sûr.
On n'est pas dans ce problème.
Là, c'est évident. On n'est plus du tout dans ce problème. Donc avec ça, on conclut, d'accord, avec ça, on conclut notre Mishnah, qui est très intéressante, dans laquelle on a parlé beaucoup des simanim. Donc on conclut que les simanim ont une valeur juridique minatora. D'accord. On conclut que les témoins sont toujours plus forts que les simanim. Toujours. Quand on a des vrais témoins, c'est toujours plus fort que les simanim. Et on conclut que s'il y a simanim contre simanim, d'accord, qui c'est qui passe en premier? Donc on a dit, entre longueur et largeur, qui passe en premier? Longueur. Entre longueur et largeur et poids, qui c'est qui passe en premier?
Poids. Entre longueur et largeur et longueur plus largeur.
Entre longueur et largeur et longueur plus largeur, gamma, comme
longueur
on appelle
plus
ça.
Largeur.
Non.
Longueur et largeur.
Longueur et largeur.
Longueur et largeur.
D'accord,
oui,
celui qui a la dimension est le plus précis. D'accord, ça, c'est tout ce que, ça, c'est, voilà, voilà tout ce qu'on va dire. Et si un il dit, si un il a des témoins sur le mode de fabrication et l'autre il a des simanimes qu'il avait l'objet juste avant qui s'est perdu, qui c'est qu'on passe en premier?
Deuxième.
Celui qui avait des simanimes juste avant qu'on a perdu. Maintenant on passe à la Mishnah suivante. On commence la Mishnah suivante.
Aïe aïe aïe.
Mishnah a dit, ça c'est un cas, ça, c'est une Mishnah très importante.
Il n'y a pas besoin
très
de faire Chabruta là-dessus. D'accord. Sur ce qu'on vient de faire.
C'est Mishnah, bien sûr. Vous avez des notes en bas très intéressantes.
Ouais.
Vous avez notamment le Roche qui a une approche très intéressante, Maharam Shif et tout, vous verrez les notes très intéressantes. Donc,
ça prend plein la tronche à l'élection.
Ve'ad Matai, Chayav Lahriz. Donc ça c'est une Mishnah très intéressante, puisque c'est une Mishnah qu'on attend depuis longtemps. C'est quand tu me dis que je dois proclamer un objet, je dois proclamer que j'ai un objet trouvé, combien de temps je dois proclamer? Ça, c'est une question qu'on a tous posée depuis le début de Lumetziot, d'accord? C'est une question qu'on attend, et donc là qu'on approche de la fin de Lumetziot, on y arrivera pour Pessah l'année prochaine, je pense. D'accord.
Ouais.
Donc la question se pose, Ve'ad Matai, Chayav Lahriz. Jusqu'à quand on a l'obligation de
proclamer.
Qu'est-ce qu'il nous répond, Rabbi Meir? Rabbi Meir nous répond, il nous dit, Ad Kede Shiye Dubo Shrena. Il faut attendre, d'accord, que ses voisins soient au courant du fait que j'ai proclamé. Ça veut dire que je proclame. On va attendre un certain laps de temps, mais il faut que les voisins soient au courant que j'ai trouvé quelque chose. Et que si ça leur appartenait, ils seraient venus le chercher. Alors la Gemara va développer tout de suite après de quel voisin on parle. D'accord. Est-ce qu'on parle d'abord de quel périmètre on parle, de quel voisin on parle, les voisins de l'endroit où j'ai trouvé ou mes voisins à moi? Il y a beaucoup de paramètres que la Mishnah n'a pas encore développé, qu'on verra dans la Gemara. Donc, Rabbi Meir nous dit, combien de temps je dois proclamer? Et d'ailleurs, on nous donnera des temps qui ont été donc statistiquement, qui ont été évalués par les Rachamim, mais de manière générale, la règle est juste que les voisins soient au courant. Bon, donc si on va dire que c'est mes voisins par exemple, quand? On va dire au Beit Rabban, je trouve quelque chose au Beit Rabban. D'accord? Combien de temps il faut? Bon, on verra dans la Gemara, mais combien de temps il faut à peu près pour que toute personne qui est passée par le Beit Rabban, quelle est la rotation, d'accord, de personnes qui tournent au Beit Rabban? Combien de temps il faut pour que celui qui est venu au Beit Rabban, certainement, il soit au courant? Environ, c'est une semaine, deux semaines maximum, mais pas plus que ça. En général, même si une personne n'a pas pu venir un Shabbat, il viendra un Shabbat suivant. Il n'y a pas de rotation plus que deux semaines, donc on verra tout ça. Nous, on ne sait pas, nous. Nous, on trouve un objet, on ne sait pas à qui il appartient, donc on ne sait pas sur les statistiques. Statistiques en général, dans un Beit Rabban, il y a une rotation, enfin de ce que je vois, maximum deux semaines. C'est très rare qu'il y ait plus que ça. C'est-à-dire qu'une même personne, une personne qui vient assez souvent en Beit Rabban, elle reviendra au moins une fois toutes les deux semaines. Ça peut arriver, des exceptions, une fois toutes les trois semaines, une fois par mois.
Elle peut arriver, elle part en vacances.
Grand maximum, grand maximum. Bien sûr, s'il y a le mois d'août entre les deux, il faut pas... D'accord? Bon. Alors, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda s'écrit avec un E ou avec un Aleph ici?
Hey.
Ah bon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, d'accord, Shalosh Regalim. Rabbi Yehuda il dit non. Il dit il faut attendre trois fêtes. On verra aussi la Gemara expliquera pourquoi. Il dit trois fêtes, ça veut dire quoi trois fêtes? Ça veut dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on considère que pendant ces périodes-là se trouve la majorité du Ham Israël, la majorité des gens. On considère que tout le monde a l'obligation de venir en Israël, de venir à Jérusalem, au moins, pas tous les mois d'août, mais au moins une fois, au moins trois fois par an. D'accord ? Trois fois par an, ça veut dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Très bien. Maintenant, on estime qu'il y a des fois des gens qui ne peuvent pas venir les trois fêtes. Ah, même à l'époque, les gens avaient des fois des problèmes de Parnassa, c'était pas facile, etc. Surtout à l'époque du deuxième Etamigdash. Donc, ils avaient des problèmes, donc ils ne pouvaient pas venir. Mais les gens au moins essayaient de venir une fois par an. Donc la rotation était de combien ? C'était de un an. C'est-à-dire qu'une fois qu'un an était passé, on était sûr que la personne qui l'a perdu, c'est sûr qu'il est déjà revenu. Là, à peu près. Donc, il nous dit, Rabbi Omer, Shalosh Regalim, trois fêtes. Et après, Ve'achar Regalacharon Shivayamin. Et après la dernière fête, donc après la troisième fête, il faut attendre encore 7 jours supplémentaires. Ça, c'est des sujets qu'on développera dans la Gemara. Pourquoi ?
C'est vachement qu'un an.
Pourquoi 7 jours ?
Les trois fêtes, c'est à la fin de la troisième fête, ça fait pas un an.
D'accord, donc ça fait un an.
Non. Soukot,
ouais.
Et Shavuot.
Ça peut faire moins qu'un an, oui. Ça dépend qu'on a perdu. Si on l'a trouvé en Cheshvan, voilà. Si on l'a trouvé juste avant Pessah,
par exemple, ça fera 8 mois à peu près.
Si on l'a trouvé, voilà, le plus court, si on le trouve juste avant Tishri. Non, juste avant Pessah, pardon. C'est ça le plus court. Si on trouve juste avant Pessah, donc on aura Pessah, Shavuot et Tishri. Donc on aura un cycle de 6 mois. 6 mois et demi. D'accord ? Bon. Donc on dit comme ça. Après la dernière fête, il faut attendre 7 jours. Pourquoi ? Le temps que chacun a de rentrer à la maison 3 jours. Apparemment, tout le monde rentre en 3 jours, on va développer dans la Gemara. Donc il rentre chez lui à la maison, ça va prendre 3 jours. Qu'il découvre, c'est en général quand on arrive à la maison qu'on découvre qu'on a perdu quelque chose. Hein, vous n'avez pas remarqué en vacances toujours, c'est quand tu rentres chez toi à la maison, tu dis « Ah mince, j'ai oublié ça à la maison de vacances ». Tu n'aurais pas pu remarquer avant. Donc, il faut qu'il rentre chez lui à la maison, un jour, le temps qu'il se repose et qu'il réalise qu'il a perdu, et qu'il revienne, d'accord ? Il lui faut encore 3 jours. Donc moi, à Jérusalem, je dois attendre encore 7 jours. Bon. Ça, c'est ce qu'il nous dit la Mishnah. On a beaucoup d'éléments ici qu'on aimerait comprendre, c'est pas très clair.
Ah,
donc on a la Gemara.
Je devais rentrer, j'attends,
ou bien si je peux pas moi rester, je le donne à un habitant à Jérusalem. D'accord, c'est pas un problème, c'est pas moi qui obligé de le rendre. C'est bien. Alors la Gemara pose la question que tu viens de dire. D'abord, on va essayer d'analyser ce qu'a dit Rabbi Meir. Tana, tu m'as enseigné dans la Mishnah, d'accord, on a enseigné que je dois proclamer jusqu'à ce que les voisins, d'accord, jusqu'à ce que vont savoir mes voisins que l'objet a été perdu. Alors d'abord, on nous dit une première chose, la Gemara. Elle nous dit qu'il y a une braïta qui nous explique que de quelqu'un on parle ici, Shrene Aveda. On ne parle pas de mes voisins chez moi à la maison. Par exemple, si je trouve un objet dans le 19e, d'accord ? Il ne faut pas chercher les voisins du 13e arrondissement, il faut chercher les voisins du 19e.
Ah, les voisins ont perdu l'objet qu'elle
a. Bah oui, c'est logique. D'accord, c'est logique parce que les voisins du 13e, ils n'ont pas de raison de perdre nos objets en 19e. On est bien d'accord.
Ils ne connaissent pas l'objet.
Ils n'ont rien à faire avec cet objet. Donc, première chose que nous dit la braïta, elle nous dit Shrene Aveda. Les voisins de la perte. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Maïshrena Aveda, qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets dans la Braïta, les voisins de la perte ? Eh Lima, si tu vas me dire qu'on parle ici des Shrenim de Baal Aveda, qu'on parle ici des voisins de celui qui a perdu, donc ça veut dire mes voisins du 13e, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? I Yadale, Lizul Vene Adrenyale. Je comprends pas. D'accord ? Si tu sais qui a perdu l'objet, ben t'as qu'à lui rendre, c'est quoi cette histoire-là ? Ça marche pas ton histoire. Et là seulement, de quoi Rabbi Meir parle ? Rabbi Meir parle, vous savez, on a toujours l'habitude avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, toujours, on a l'habitude dans les Mishnayot que il faut comprendre ce qu'il dit. Parce que des fois, Rabbi Meir, on a l'impression des fois qu'il parle pour lui-même. Ça, c'est très fréquent. Même entre les Chachamim, on dit que les Chachamim n'ont pas toujours réussi à comprendre ce que Rabbi Meir voulait dire. Il disait des choses très profondes. Par exemple, dans la Mishnah, il dit que ses voisins sont au courant. Ses voisins. Les voisins de qui ?
De Rabbi Meir.
D'accord ? Mais attendez, ses voisins de qui ?
De la perte.
D'accord ? Les voisins de la perte ?
Ou les voisins de...
Les voisins de celui qui a perdu... Les voisins
non,
de qui
de celui qui a trouvé.
Les voisins de celui qui a trouvé. Les voisins de celui qui a perdu. Les voisins
on
de qui
pas qui c'est qui a perdu, c'est pas possible.
Alors voilà, donc c'est quoi cette histoire ?
Ça va être plus clair.
Les donc, voisins de l'éditeur.
Si tu vas me dire que quand on parle... Si tu vas me dire que quand on dit qu'il a... Si tu me dis que c'était comme ça, c'était la nature de Rabbi Meir. Si tu me dis qu'il a l'obligation de proclamer jusqu'à ce que les voisins du perdeur, de celui qui a perdu...
Pardon.
D'accord ? Non, c'est pas le perdant. Celui qui a perdu.
Tu me dis que c'est ça la traduction.
Attendez.
Non, mais
si tu me dis...
Perdant, c'est quand il y a un jeu.
Oui, c'est quand il y a un jeu. Bon, celui qui a perdu. Perdeur, ça se dit pas. Bon, si tu me dis que c'est les voisins de celui qui a perdu, mais je comprends pas. Si je sais qui a perdu, je vais lui rendre. C'est quoi ton histoire ? dit, attends deux secondes, je sais que c'est lui qui a perdu, je sais que c'est M. Bisput qui a perdu, mais je vais attendre que ses voisins sont au courant, mais attends, c'est, tu sais que c'est qui va lui rendre, quoi, cette histoire. D'accord? Et là seulement, t'es obligé de dire, comme on a expliqué, que Shrené Amakom chez Nimtsetbo, Aveda. Qu'on parle ici des voisins de l'endroit où on a trouvé la perte. Donc les voisins du 19e. Je sais pas si celui qui a perdu l'objet au 19e habite le 19e, ou le 20e, ou le 13e, ou Vincennes, je sais pas où il habite. Mais je sais qu'il a été trouvé au 19e. Donc je dois attendre, d'accord, que les voisins, ceux qui habitent au 19e autour du périmètre de la perte, vont être au courant qu'il y a un objet qui a été trouvé ici. Très bien. Ok, bon, pas de problème, on accepte ce que Rabbi Meir a dit, on comprend. Continue la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit on attend trois fêtes, la rotation est de trois fêtes, d'accord. Et après la troisième fête, il faut attendre combien de jours?
7 jours.
Pourquoi 7 jours? D'accord. 3 jours pour aller, 1 jour pour rester, pour réaliser qu'on a perdu, et 3 jours pour revenir. La Gemara a posé la question, attends, qu'est-ce que tu me racontes Rabbi Yehuda? Ruminhu, pose une question sur Rabbi Yehuda. Question que j'attendais que vous me posiez. Bishlosha b'machreshvan shalim et takshamim. Il y a une Mishnah qui dit comme ça dans le traité Ta'anit, il dit que le 3 Cheshvan, Shoalim et Takshamim, on commence à demander la pluie dans la prière. On parle ici en Eretz Israël. Ça veut dire qu'on dit Veten Talumatar. Donc, Ashmini Atzeret, on commence à dire Mashivawar Morida Keshem. Et à partir de quand on dit Veten Talumatar Livracha? D'accord? Veten Talumatar Livracha. Donc, chez nous, on le fait à partir, c'est où? Le 4 ou le 5 décembre.
Ouais.
D'accord? Ça dépend des années. Mais en Israël, aujourd'hui, on fait le 7 Cheshvan. Alors, écoutez bien ce que dit la Mishnah. Michelin qui nous dit à l'époque, non, c'est pas le 7 Cheshvan, mais c'est le 3 Cheshvan. À partir du 3 Cheshvan, dans la bénédiction, ce qu'on appelle Birkat Hashanim, d'accord, donc c'est cette fameuse bracha, le Barchenu, le Barach Alenu, c'est là qu'on va commencer à dire Veten Talumata Livracha.
Mais vous faites toujours vous Barach
Alenu. Oui, Barach Alenu, mais on change juste le Veten Talumata ou Veten Bracha.
Ouais, mais vous faites Barach Alenu, on fait Barchenu. Ouais. Vous faites toujours Barach Alenu.
Dans la Gemara, il n'y a pas Barchenu, Barach Alenu. Hein. Dans la Gemara, il y a juste Veten Talumata et Veten Bracha. C'est un petit bonus de Sepharad. Non, il n'y a pas de problème, mais je te dis, j'ai pas écrit dans la Gemara. Donc, Urminhu, donc on pose la question, donc elle dit comme ça, Bishlosha b'machreshvan shalim et takshamim. Il y a un premier avis qui dit que c'est pas le 7 Cheshvan qu'on demande en Israël la pluie, mais c'est le 3 Cheshvan. Pourquoi? Parce que cet avis-là, il pense comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que la première saison des pluies arrive quand? Arrive le 3 Cheshvan et non pas le 7 Cheshvan. C'est pour ça qu'à partir de quand on commence à prier pour la pluie? On commence à prier à partir du 3 Cheshvan. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, c'est pas le 3 Cheshvan qu'on demande, mais c'est Beshiv Abo. C'est le 7 du même mois, donc le 7 Cheshvan. Pourquoi? Quand? Shehu Chamisha Saryom Achar Achag. Parce que ça correspond à 15 jours après la fête. Et alors, pourquoi 15 jours après la fête? Écoutez bien. Kedesh Yagia Haron Sheberet Israël, pardon. Pour que le dernier habitant d'Israël, le dernier de ceux qui sont, le dernier celui qui est resté, etc., qui a dû partir, le dernier de ceux qui ont monté, ceux qui sont montés pour donc le dernier des pèlerins, pardon, chez Beret Israël, les Vétam, donc il a le temps de rentrer chez lui à la maison, Linéar Prat, ceux qui habitent à proximité du fleuve de Prat. Donc il fallait 15 jours de marche. Faut oublier à l'époque, hein, une personne marchait en moyenne pendant un jour, entre 15 et 20 kilomètres. Pas plus. D'accord? Pas beaucoup. Donc vous allez jusqu'au Nahar Prat, vous comptez, ça fait 15 jours. D'accord, Israël.
Pourquoi? Si c'est un marcheur, si c'est un cavalier...
À l'époque, on considérait qu'une personne standard marchait par jour entre 15 et 20 km. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on considère.
Dieu, on peut faire 1000 km par jour.
Non, à pied, à pied.
Comment on fait? À pied, tu peux faire 20-30 km facile.
Et puis on peut faire 50, 40, 50 km par jour, sans problème. Hein, bon.
Non, peut-être 40.
On marche à 4 km/h à peu près. Hein. Ça veut dire 10 heures le TV marche.
Moi j'ai déjà marché 20 km d'un trait, mais enfin...
Oui, 20 km.
Ouais, mais tu ne fais pas tous les jours, pendant 15 jours pour rentrer chez toi.
Voilà, c'est ça.
Avec des bagages et des machins. Le gars était chargé.
De la pluie,
les routes.
Allez, en tout cas, voilà. Ça, c'est la Gemara, elle nous dit. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, d'accord, on marchait entre 15 et 20 km par jour. C'était la norme.
S'il y avait des pierres...
Le temps de s'arrêter, le temps de trouver un endroit où dormir, etc. Bon, ça prend donc... Vous calculez, de Jérusalem jusqu'au Nahar Prat, vous calculez, on est à peu près dans le compte, ça fait le dernier, celui qui a pris 15 km par jour, à peu près on y arrive, pour arriver au Nahar Prat, il faut 15 jours.
Qu'est-ce que c'est le Nahar Prat,
vous,
ou quoi?
Non,
l'Euphrate, d'accord.
L'Euphrate.
Donc il faut compter. Il faut pas oublier aussi que le vendredi, on peut pas marcher plus de temps, d'accord. Le vendredi, on marche que demi-journée.
Mais non.
Plus que 50 km, beaucoup plus.
15 fois 20, il y a 300 km.
Il me dit 3 jours pour faire.
Non, 15 jours.
15 jours. D'accord. Il faut oublier aussi que le Shabbat, on peut pas y aller. Le vendredi, on marche demi-journée, donc on est dans le compte à peu près. D'accord. Ça prenait à peu près. Voilà. Ça prenait à peu près 15 jours. Donc il nous dit.
C'est là où se situent les populations les plus éloignées.
Khamisha Asariyom, Acharachag, Kedesh Yagi Acharon Sheberet Israël, Inéarprat. Pour que le dernier des habitants d'Israël va rentrer chez lui au Néarprat. Donc ça veut dire que combien de temps il faut? Combien de temps il faut pour rentrer chez soi? 3 jours ou 15 jours? 15 jours. Alors, qu'est-ce que tu me racontes dans la Mishnah? Tu me dis, en 3 jours il est chez lui à la maison, t'as pris une fusée ou quoi? 3 jours il est chez lui à la maison, 1 jour il réalise et 3 jours il revient. Mais attends, 15 jours?
Mais c'est facile.
Alors, même selon Rabbi Meir qui va dire que c'est pas 15 jours, c'est un peu moins, mais on est à 15 jours, on est à 12 jours, 13 jours, on y est comme c'est, mais c'est pas 3 jours.
Donc, au 3 jours, il réalise qu'il a perdu quelque chose.
Non,
c'est ce qu'il a dit.
La
Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah a dit qu'il était chez Yelech les vétos pour qu'il ait le temps de rentrer chez lui à la maison en 3 jours. Tu m'as dit qu'en 3 jours il est chez lui. Or, on vient de voir le contraire.
Maintenant, il faut quand même être bête, on va pas s'amuser à vérifier ses affaires une fois qu'on a marché 300 km.
D'accord.
On vérifie avant.
Non, mais on a dit justement, on a dit que. Non, mais on voit en vacances, vous remarquerez. On voit qu'on réalise qu'on a perdu un objet que quand on est arrivé chez soi. Quand on est dans le voyage, les trucs, vous remarquerez.
3 jours, c'est un jour.
Monsieur Bismuth, ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose dans...
Jamais.
Dans une
boîte à location?
Jamais vous avez perdu quelque chose?
Mes enfants.
Jamais vous avez oublié quelque chose dans une boîte à gants, une voiture location? Jamais.
Non, mais
si. Jamais vous avez perdu?
Jamais.
Bon. Si, mais des fois,
la première fois,
jamais vous avez oublié un CD dans un autoradio de voiture?
Jamais. T'as oublié de laisser ça?
Tu me dis
non. Où tu loues, je loue après toi.
Il achète pas de CD, mais j'ai des cassettes il y a 20 ans, il est
fait. C'est vrai qu'on vérifie, d'accord? On vérifie, mais dans une maison, on oublie toujours des choses.
Ah, moi, je passe un petit coup
les lignes. D'ailleurs, on avait appris dans la Gemara. Bon, c'est impossible qu'on ne vous oublie rien.
Bon, allez, continuons.
Donc, on dit comme ça.
Non,
peut-être que vous vous rendez pas compte.
C'est pas parti de la place d'avion,
c'est pas parti de la place de train.
C'est Bismuth, excusez-moi. Vous êtes capable de vous dire exactement avec combien de vêtements vous êtes parti de chez vous et combien de vêtements vous revenez? D'accord.
Les vêtements, ça va.
Non, mais les vêtements des enfants, des femmes, etc.
Je fais une liste. 12 paires de chaussures. Je compte le nombre de... 12
paires de chaussures ou quoi?
Je compte le nombre de jours. Parce que, attends, les valises, c'est devenu compliqué aujourd'hui quand tu prends un avion. Hein. Tu pars avec du
tu
poids.
Fais, tu fais une liste et tu marques 6 paires de chaussettes, dont 2 bleus, 3 noirs.
Comme les colos des
gens. J'y crois pas, hein,
bon,
un instant.
J'y crois pas. Mais bon, si vous le faites, peut-être que vous partez pas en vacances alors. Vous partez jamais. Parce que si on va une ou deux fois par an, on le fait pas. Faites-moi confiance. Parce que... ça arrive très souvent qu'on part avec 20 paires de chaussettes et qu'on en revient avec 19.
Enfin, ou bien avec 15. Enfin, on va bon. Pas défaire du niveau d'une paire de chaussettes en plus.
Oui, sûr. Non mais c'est un exemple que j'ai donné. Eh bien. Donc on dit comme ça. Donc pose la question. Tu me dis qu'il faut 3 jours. A priori, c'est pas 3 jours qu'il faut, c'est 15 jours. D'ailleurs, on voit que l'argument parlant, on dit qu'il c'est pas 3 jours qu'il faut, c'est 15 jours. Donc combien de jours il faudrait? Il faudrait 15 jours aller, 15 jours retour. Ben, il faut vraiment qu'il a perdu quelque chose d'important.
Non, mais c'est
quelque
chose d'important, il s'en rend compte, c'est ça que je veux vous savoir. S'il a perdu quelque chose,
d'arriver chez lui,
s'il a perdu une chose pour faire 15 jours et 15 jours, c'est qu'il a perdu quelque chose d'important.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'important et s'en rendre compte?
Il est dans le voyage, encore une fois. Oui. Bonne question.
S'il a perdu une de l'or, des pièces d'or, il
faut comprendre. Il faut comprendre. D'accord. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est très simple, c'est qu'on nous dit que... Non, c'est que d'abord, ça peut être qu'il a perdu un vêtement, même pour un vêtement, d'accord, il a envie de récupérer son vêtement. Alors peut-être qu'il dit, bon, quand je reviendrai, je le récupérerai, tout ça, on récupère un objet. Un objet perdu, ça se récupère. Je vous donnais un exemple qui s'est passé il y a 2 semaines, d'accord.
Importable.
Écoutez bien, non, un exemple qui m'est arrivé à moi, personnellement.
Moi personnellement, que j'ai vécu moi-même.
Écoutez bien.
Et personne d'autre.
C'était un mariage de ma cousine. Je crois que j'ai raconté à quelqu'un. C'était un mariage de ma cousine. Le mariage devait être à 2h30 et bon, il a commencé à 4h30.
Comme tous les mariages. D'accord. Il n'y a rien de spécial.
Bon, il n'y a rien de spécial. Il faisait très chaud, etc. On est sorti.
Ton rasoir électrique.
Non, écoutez bien. On est sorti à 6h. On est sorti à 6h du mariage. Les enfants étaient en transe, la clim ne marchait pas dans la synagogue, c'est au tournel, je sais où c'était, bon, ils n'ont pas allumé ou je sais pas quoi. On rentre à la maison. Donc on rentre dans la voiture, on rentre à la maison, etc.
T'as trouvé à te garer au tournel ?
Dans la voiture, il y avait la clim ou pas ?
Écoutez bien ce qui se passe.
Pas encore.
Je rentre, elle marchait pas encore.
Ah, je le lendemain, elle marche pas, c'est qui dit pas tout le monde.
Je rentre à la maison. D'accord ? Je rentre à la maison, j'arrive en bas de la maison, j'ouvre le coffre pour prendre la poussette. Pour mettre les enfants, et là je réalise que la poussette n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, tout de suite, donc j'ai réalisé tout de suite ce qui s'est passé, c'est que, apparemment, je crois que ma femme a plié la poussette, elle croyait que moi j'allais la mettre dans le coffre, parce que c'est moi en général qui fait, je l'ai pas fait, chaleur, etc.
Elle est restée pliée dans la rue.
La poussette, elle est restée pliée, posée dans la rue.
Bon.
Il était, alors, il y avait les embouteillages graves de chez grave. Je sais pas, il y avait un accident dans le périph', je sais pas ce qui s'était passé. Je crois qu'il y avait un camion qui avait explosé, je sais plus ce qui s'était passé. Du coup, on était rentré à la maison 8h30. Donc moi, j'ai dit, bon, d'accord, c'est perdu. Dommage. Bon, capara. Je rentre chez moi à la maison, d'accord, et bon, pour moi, capara. Je reviens le lendemain, mon père, il me dit, tu sais, il me dit, peut-être tu perds rien. Peut-être essaye de voir les magasins qui étaient autour. Peut-être qu'ils l'ont trouvé. Donc j'ai sur Google Maps. Et je vois, je resitue l'endroit à peu près où j'ai perdu, où la voiture était garée. Et je vois qu'il y avait un magasin de qui vendait des photocopieuses, il y avait un bar, etc. Donc j'appelle les magasins, cherche les numéros. J'appelle le premier magasin qui vend des photocopieuses. Il y a une dame qui dit oui, effectivement, hier, on a fermé à 9h. J'ai vu une poussette posée, mais je me suis dit, bon, certainement qu'elle a quelqu'un, j'ai pas touché. Donc je suis parti, je l'ai laissé comme ça. J'appelle un deuxième, donc j'appelle comme ça 2-3 magasins, tous ils me disent, on a vu la poussette, mais on l'a pas touchée. À la fin, je tombe sur le bar. Il y avait un bar à côté. Le gars, il me dit, j'ai trouvé la poussette. Et il me dit, mais monsieur, ça va à la tête, on a fait une poussette dans la rue. Ça me crie. Il dit, bon, je voulais garder, elle est dans ma voiture. Je suis venu le retrouver. D'accord, c'est une poussette, ça vaut quand même, ça vaut ce que ça vaut.
Oui.
D'accord? Je suis venu, je l'ai repris. Voilà, pour vous montrer que j'étais bien content de la retrouver.
Et comment ça se passe, tu l'as remercié, tu
vois. Ouais, bon, après un petit quelque chose, je ferai un petit café.
Et ouais, un petit coup. Une côte.
Pour vous dire, d'accord. Pour vous dire qu'on est bien content de retrouver quelque chose. J'ai pensé à notre Gmara quand j'ai fait ça. Donc, pose n'importe la question à la Gmara.
J'ai trouvé des trucs que, normalement, dans un avion, imaginez l'avion, il est reparti, tout ce qu'on veut. J'ai retrouvé il y a, là, en venant de Pessah. N'abandonnez jamais. Quand Hachem, il veut vous la rendre, il faut quand même la chercher, quoi.
Oh, ça vaut cher, bon, c'est une poussette, ça vaut quand même... Donc...
Bien
sûr. Oui, 150, ouais. C'est dommage. Donc, la Gmara, elle pose la question, elle dit, tu m'as dit que... Tu m'as dit qu'il faut 3 jours pour entrer chez toi à la maison, or ici on a vu que c'est 15 jours qu'il faut. Ah, ma Rav Yosef répond, la cachia, il n'y a pas de question, je conclue avec ça. Qu'un de Mikdash Rishon, qu'un de Mikdash Sheni. Il n'y a pas de question sur cette Mishnah, sur notre Mishnah. La Mishnah dans Ta'anit qui disait qu'il fallait 15 jours, on parlait du premier Beth Amikdash. Notre Mishnah, malheureusement, était écrit à l'époque du second Beth Amikdash. C'est quoi la différence? Be Mikdash Rishon, dans le premier Beth Amikdash, d'une fichée Israël tout va, hein, qu'il y avait beaucoup de monde qui venait. Dirent-ils, comme c'est écrit, Yehuda ve Israël, Rabim, Kachol, Asher, Alayam, Larov, que Yehuda et Israël étaient nombreux comme le sable qui est sur la mer. Vaïnan Kouliaï, il fallait tellement de temps. Il y avait tellement de monde qui était là, il y avait tellement d'affluence, et des gens qui venaient tellement loin, qu'il fallait 15 jours. Mais Mikdash Sheni, alors que dans le deuxième Beth Amikdash, j'ai l'homme fiché Israël tout va, qu'il n'y a pas tellement de juifs. Pourquoi? Dirtiv Baou, parce que c'est écrit, Kol Akal Kehad, tout le Kal, toute l'assemblée qu'il y avait, c'était combien? Arba Ribo, ça veut dire 4 fois 10 000, donc 40 000. Alpaïm, Shlosh Mod Veshishim, ils étaient 40 000, donc 42 360. Big deal, pas énorme, d'accord? Donc le Bainan Kouleaï pour disperser un parc des princes, il faut pas... ça se disperse très rapidement, d'accord? Donc le Bainan Kouleaï, il fallait pas tellement de temps, on était très très loin des 600 000 personnes.
Mais ça c'est d'accord à l'époque de Néhémia.
Donc ça 50 c'est...
ans plus tard, il y avait beaucoup
ça,
plus
de temps. Attendez, non
30 ans aussi.
Ça c'est la réponse, non, c'est malheureusement, vous savez qu'on dit que dans le deuxième état militaire, il y avait beaucoup moins de monde que dans le premier.
Mais
donc si c'est beaucoup moins de monde, attendez... Puisqu'il y a beaucoup moins de monde, donc qu'est-ce qu'elle dit je vais conclure avec ça. Puisqu'il y a beaucoup moins de monde, donc qu'est-ce qu'elle sur quelle base elle parle l'Agmara? L'Agmara dit puisqu'il y a beaucoup moins de monde, donc ça veut dire que certainement qu'ils venaient tous d'un périmètre qui était assez proche de Jérusalem. Donc de 3 jours de marche autour de Jérusalem. Ce qui n'est pas forcément logique. Peut-être on peut dire le contraire. Peut-être on peut dire qu'ils viennent
de Solon. C'est pourquoi c'était très dangereux. Il y avait des tribus qui venaient de l'extérieur qui étaient là. Les gens ils se faisaient attaquer régulièrement.
Ça, la Gvara n'en a pas parlé en tout cas.
Ce serait pas étonnant qu'effectivement ils venaient pas de très loin.
Il y avait les autres.
Non, parce qu'ils venaient pas. Ils venaient pas. Ils ont pas fait l'Aliya. Il y a pas beaucoup qui ont fait l'Aliya.
Il y avait pas beaucoup. Bah, c'était le premier envoi de.
Ils sont venus avec Ezra.
Il y en a qui sont venus, qui sont repartis. Il y a pas beaucoup de monde. Il y avait pas beaucoup de monde dans le deuxième.
Ils sont venus avec Ezra. Il y en a pas beaucoup qui sont revenus.
Il y en a qui sont revenus, mais d'abord il y en a qui sont partis dans d'autres pays. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, qui sont repartis. C'était une période.
On parle d'un grand nombre.
Mais ça a duré 400 ans après.
À Jérusalem.
D'accord, mais après, jusqu'aux Romains, s'est multiplié.
C'est la Gemara le dit, ça veut dire c'était une moyenne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui venait. Pas beaucoup de monde qui venait.
Même à l'époque d'Hérode.
Non, malheureusement, non. Donc, Marlé Abaye, pour une question à Ravieux, ça fait dit, voilà, c'est écrit, les Kohanim et les Lévim se sont installés, vers Meshorerim et les chanteurs, vers Shoharim et les portiers. Vechol Israël Be'ariem et tout le peuple juif dans leur ville. De là on comprend que quoi? Que même s'il y avait moins de monde qui venait, mais ça ne change pas que celui qui habitait à 200 km ou à 150 km, il habite toujours à 150 km. C'est pas parce qu'il y a moins de monde qu'il va rentrer plus vite chez lui. D'accord, peut-être qu'au début, juste à la sortie de Jérusalem, il va gagner quelques heures, mais c'est le bout du monde. Mais après, pour rentrer chez lui, ça prend le temps que ça prend. Donc ta réponse ne marche pas. Il faut toujours 15 jours pour rentrer chez toi. Alors, la Gemara a dit, bon, dans ce cas-là, puisque tu m'as dit ça, je vais inverser la réponse. Ve kevan de achiou, puisque c'est comme ça, ifra mistabra, je veux dire le contraire. Mikdash Rishon, dans le premier Beit Hamikdash, une fiche et Israël tout va, qu'il y avait beaucoup de monde, dimit savat alma. Les gens à l'époque ne voyageaient pas seuls. C'est comme ça. Les gens à l'époque voyageaient toujours en groupe. On appelait ça des caravanes, shayara, des caravanes. Voyageaient en groupe, imaginez 15 jours, c'est déjà galère comme ça. D'accord? On voyageait en groupe. C'était des groupes, c'était des petites colonies comme ça, ils voyageaient. Donc à l'époque, on va dire le contraire. Ah, c'est très fort ce qu'on dit avec Marais. À l'époque du premier Beit Hamikdash, d'une fiche Israël tout va, qu'il y avait beaucoup de monde dans le peuple juif, c'était Sabbat Alma. Donc, j'ai dit, où vous allez là-bas? Ah bah tenez, venez, on va faire un groupe. Les groupes se formaient très rapidement. D'accord? Au Mishtak Reshairat, donc on trouvait facilement des shuttles, d'accord? Des Azé, Ben Imama, Ben Delaila. On trouvait des gens qui partaient deux jours, deux nuits, tout le monde partait. D'accord? Donc, l'obéinan kouliaï, il ne fallait pas tellement de temps pour rentrer chez eux. Vesage bitlata yoma, 3 jours suffisaient. D'accord? Bonne question. Tu poses la question et dis, et alors, même si tu me dis qu'ils voyagent de jour et de nuit, et alors, qu'est-ce que ça change? Au lieu de 15 jours, le bout du monde, on va couper en deux, donc on va arriver à 7 jours. 7 jours, 7 jours et demi. Donc on n'est toujours pas à 3 jours.
On est peut-être à pied, on est dans les chariots.
Même des chariots.
Ça, c'est la question de Tosfot.
Ou des chameaux.
D'accord.
Et des caravanes, c'est pas un pied.
Ou des chameaux.
Alors, regardez la réponse de Tosfot. C'est une réponse très intéressante. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, si ça prend 15 jours, pourquoi ça prend 15 jours? Parce que dans les 15 jours, il faut compter beaucoup de choses. D'abord, il faut compter que le temps qu'on se lève le matin, d'accord, qu'on se lève, qu'on décolle, qu'on démarre. Ensuite, le soir, il faut comprendre que les gens à l'époque, dès qu'il fait nuit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Donc il fallait déjà bien longtemps avant qu'il fasse nuit, trouver un endroit où dormir. Donc des fois quand on était à côté d'une ville et que bon il va faire nuit dans 2 ou 3 heures, on dit bon on s'arrête ici parce qu'on ne sait pas où est la prochaine ville. Ça veut dire que tout ça nous dit qu'en vérité on perdait énormément de temps. On perdait énormément de temps avec tous ces petits
amours qui avaient autour du voyage.
Donc, en vérité, nous dit Tosfot, en vérité, quand on parle de 15 jours, on nous parle. En vérité, on ne craint pas de ceux qui étaient à Néar Prat. Ceux-là, on n'en pense pas à eux. On pense à ceux qui étaient à 3 jours de marche. 3 jours de marche jour et nuit. Et que 3 jours de marche pouvaient devenir 15 jours. 15 jours pouvaient devenir. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Il faut Tosfot pour le dire. Hein. Sinon, Tosfot, on n'en peut plus trop. Donc, regardez comment la Gemara a renversé la situation. La Gemara a dit non. La Gemara inverse la situation. Elle dit non. Elle dit dans le premier Beit Hamikdash, qu'il y avait beaucoup de monde qui passait. On faisait des charrettes, on faisait des shuttles plus facilement. Dans ce cas-là, dans le premier Beit Hamikdash, 3 jours suffisaient. Dans le deuxième Beit Hamikdash, j'ai l'on fiché Israël tout va, velom et tsavat alma. Dans le deuxième Beit Hamikdash, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait, et donc on faisait des shuttles plus difficilement, velom ishtak reshairat adazle, bemima bilayla. On ne trouvait pas des charrettes qui rentraient de jour et de nuit. Beinan kuleai. Là, il fallait tellement de temps, parce que des fois on rentrait seul, on rentrait à 2 ou à 3, et donc là il fallait plus de temps. Donc des fois il fallait 15 jours. C'est un grand chidouche qui nous dit la Gemara ici.
Je vois pas en quoi.
D'accord? Ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'en vérité, on ne craint pas de ceux qui sont en Arprat. C'est-à-dire ceux qui habitent à 150 km, on pense pas à eux. On parle pas d'eux. Nous, on parle des gens qui habitent à un périmètre de 3 jours de marche, jour et nuit.
Oui.
D'accord ? Donc on va dire, je sais pas, 60, 78 km. Je sais pas combien on peut arriver déjà.
Oui.
D'accord ? Donc on va à 60, 70 km. Non, Ashkelon, c'est plus 70 km. De Jérusalem.
Ah, de Jérusalem.
C'est un peu plus. Oui. C'est, on va dire, Lod, c'est combien de... c'est Tel Aviv, c'est combien de kilomètres ? Tel Aviv, c'est 50 km, je crois.
Oui.
C'est
ouais,
ça, Tel Aviv
ouais.
de Jérusalem.
Ouais.
50 km, à peu près. 50, 60 km, donc un peu après Tel Aviv. Donc, il dit comme ça. Ça, c'est intéressant, la réponse. En vérité, on ne craint pas ceux qui sont à Eilat. Ils n'ont rien à faire là-bas. D'accord ? Ils n'ont pas habité là-bas. Nous,
d'accord,
on parle...
à Tibériade.
Ah, Tibériade aussi. Nous, on ne craint pas. Nous, on parle pour ceux qui sont à 3 jours autour. Les autres, eh ben, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à vérifier leurs affaires. On parle de ceux qui sont à 3 jours autour. Ceux qui sont à 3 jours autour... 3 jours peuvent se transformer en 15 jours. Donc voilà comment la Gemara répond, mais Rava va donner une autre réponse. C'est la réponse d'Abaye. D'accord ? Abaye, il dit qu'en vérité, comment 15 jours sont devenus 3 jours ? Parce qu'il y a une différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash par rapport au Shotel qui était plus ou moins fréquent. Rava Amar, Rava dit, réponse encore plus simple que ça. Rava, il ne s'est pas du tout pris la tête. Il dit le Shlom Amikdash Rishon, le Shlom Amikdash Sheni. Il n'y a pas de différence entre le premier et le second Beth Amikdash. Oublie cette différence-là. L'Oitrihu Rabbanan Baveda Yotermidai. Ah ben, il nous amène un grand principe qu'on va développer dans la suite. Enfin, ça, on va développer ce principe dans la suite. Il dit que les Chachamim n'ont pas voulu trop fatiguer quelqu'un pour rendre une perte. Déjà, on te prend la tête. 3 jours, ça suffit. Alors, peut-être qu'il habite à 15, peut-être qu'il habite à 200 km ici. Oui, mais les Chachamim n'ont pas voulu trop fatiguer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, tu as raison. Pourquoi on attend jusqu'au, jusqu'au 7 Rejvan ? Parce qu'on pense aux voyageurs. Ils prennent longtemps pour arriver, 15 jours. Tu as raison. Mais pourquoi pour la Aveda on demande que 3 jours ? Parce que les Chachamim n'ont pas voulu trop fatiguer, celui qui trouve un jour.
C'est la réponse de Rava.
Ça veut dire le fatiguer, lui dire attends 15 jours qu'il aille, 15 jours qu'il revienne, plus un jour.
Arrête, reste
31
sur place.
Jours. Reste sur place, donne-le à quelqu'un qui va être sur le qui-vive pendant 31 jours. Non. Chachamim on dit 3 jours, allez, 3 jours au jour. Ils n'ont pas voulu trop le fatiguer. Et ça, c'est un principe qu'on va développer.
On n'a pas inventé une case de solidarité, d'objets
perdus.
C'est
l'endroit où la personne qui a trouvé, elle donne. Et...
le Nachalat Moshe, il pose la question, il dit oui, mais ça veut dire quoi que les Chachamim n'ont pas voulu trop fatiguer. Mais je ne comprends pas. Si on a une mise de rendre l'objet, il faut rendre l'objet.
Voilà.
Et là, le Nachalat Moshe avance ce que Dov a dit tout à l'heure.
Ah.
A dit que quand quelqu'un fait un long voyage et qu'il sait qu'il risque de perdre des objets importants, il vérifie. Tous les 2-3 jours,
oui,
ils vérifient.
Partir, voilà,
donc, pourquoi ils vérifient ? Parce qu'il y a quelque chose que j'attendais que vous me disiez. Parce que peut-être que dans les étapes où il s'est arrêté, il va dormir, il va s'arrêter pour dormir. Donc avant, quand il se lève, il vérifie s'il n'a rien perdu. Il est obligé d'ouvrir sa valise pour se changer, etc. Donc il va se rendre compte qu'il a perdu quelque chose. Ceux qui ne vont pas se rendre compte, c'est ceux qui voyagent 3 jours, jour et nuit. Shayara, comme ça, le shuttle.
C'est pas ce que dit la Mishnah.
D'accord ? Si, la Mishnah dit ça. Mishnah dit 3 jours. La Mishnah dit 3 jours, le temps qu'il rentre chez lui à la maison.
Et 3 jours pour se rendre compte qu'il avait vérifié ses affaires.
Voilà. Donc en vérité, ce qu'il nous dira,
pas 3 jours pour se rendre compte.
Un jour
pour revenir.
Un jour.
Non, même pas. Un jour, c'est à la fin pour annoncer. À aucun moment la Mishnah.
Non, un jour.
Non, elle annonce pas. Tu l'as dit tout à l'heure, mais en fait, je voulais pas te reprendre, mais en fin de compte, elle annonce pas ça.
Oui,
elle dit 3 jours, on revient,
trois
et
jours,
un jour pour annoncer.
C'est vrai, la Mishnah avait dit un jour pour annoncer, c'est vrai. Razak. Donc, la conclusion de la Gemara ici, c'est que, qu'est-ce qu'il nous dit Rava ? Rava, il nous dit qu'en vérité, on parle et le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash. Mais c'est quoi la différence entre... Pourquoi on demande que 3 jours, parce que les Chachamim n'ont pas voulu trop te fatiguer, donc ils t'ont dit, toi tu penses que ceux qui sont à un périmètre 3 jours, de 3 jours autour. Plus que 3 jours, tu ne prends pas la tête. D'accord ? Voilà, ça c'est la conclusion sur laquelle on s'arrête ici. Et on continuera à Bezrat Hashem, on aura cours la semaine prochaine, et ça sera le dernier cours de la saison. Voilà.
De la saison.
De la saison.